Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, je te partage ma conversation avec Laurane Landry. Peut-être que comme elle, il y a quelques mois en arrière, tu as le sentiment aujourd'hui de t'éparpiller. Tu ne sais pas comment gérer ta nouvelle activité de prof de yoga. Tu testes plein de choses, mais tu n'as aucune véritable stratégie et tu commences à te sentir submergé et fatigué. C'est ce moment que Laurane a choisi il y a un an pour que je l'accompagne dans le développement de son activité et on a souhaité partager avec toi aujourd'hui, dans cet épisode, tout le chemin parcouru depuis. Des portes du burn-out au développement d'un business de yoga en ligne rentable, on revient avec Laurane sur ce qu'on a mis en place pour remettre son offre de membership sur les rails et tout cela en la simplifiant, optimiser sa stratégie de communication sur Instagram en la rationalisant, lancer un programme en ligne et réaliser plus de 50 préventes pour près de 10 000 euros de chiffre d'affaires avant même d'avoir créé le programme et enregistré les vidéos. Et enfin, quelques clés de mindset pour devenir un vrai yogipreneur. Bref, on te dévoile dans cet épisode les étapes et les clés pour développer un business de yoga en ligne solide, aligné, le tout avec un marketing éthique, si cher à Laurane, et full bienveillant, comme elle dit. Tu l'auras compris, l'expérience de Laurane, c'est 100% la méthode YogiBiz que tu peux retrouver pas à pas dans mon programme de formation et de mentorat en ligne YogiBizLine, mon offre signature. Si cette interview t'inspire et que toi aussi tu veux développer ton activité de yoga en ligne comme Laurane, tu peux retrouver toutes les informations sur le programme YogiBizLine dans les notes de cet épisode, mais aussi en rejoignant mon site internet www.yogibizcoaching.com ou dans la bio de mon compte Instagram @yogibizcoaching. Tu peux nous rejoindre dès aujourd'hui, les portes sont ouvertes et si tu veux construire ton propre business modèle de yoga sur mesure et vivre de ta vocation selon tes propres règles du jeu, alors ce programme d'accompagnement est fait pour toi. J'aime bien l'appeler le yoga teacher training du marketing parce que vraiment c'est la pièce manquante à ton yoga teacher training de yoga. En attendant de t'accueillir dans YogiBizLine, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Laurane Landry. Bienvenue Laurane, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
Ben moi aussi, Cécile, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast.
Ça nous change des coachings aujourd'hui.
ouais, carrément. C'est vrai qu'on avait fait le coaching il y a déjà un an. Ça remonte, mais c'est très cool. Bon souvenir.
Tant mieux. Alors, ce que je te propose, Laurane, pour commencer, c'est peut-être de te présenter un petit peu, nous dire voilà qui tu es. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet.
Ouais, bah avec plaisir. Bah du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurane. J'habite pour l'instant à Paris parce que je vais bientôt déménager sur Bordeaux, mais pour l'instant je suis parisienne et je suis prof de yoga depuis maintenant 2 ans. Donc prof de yoga 50% online, 50% en présentiel, mais je me dirige sur du 100% online. Donc voilà, prof de yoga depuis 2 ans. Avant, j'étais dans le recrutement, donc j'ai carrément changé de métier parce que le recrutement ne me convenait pas du tout. La vie en entreprise.
Donc reconversion finalement, enfin jeune, hein, parce que t'as quel âge, Laurane ?
J'ai 25 ans, ouais.
Ah oui, oui. Donc t'as tout de suite, finalement, tu t'es tout de suite dit, ok, ça c'est pas ma voie, le corporate c'est pas fait pour moi. Et t'as eu tout de suite cette envie d'entreprendre.
Pas du tout. C'est plus l'entrepreneuriat qui m'a trouvée. C'est ce qu'on appelle une vocation, je pense. Ouais. Non, j'ai travaillé 2 ans dans une grosse entreprise dans le recrutement. Ça m'a pas du tout plu parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et qui a des fortes convictions avec un gros caractère. La grosse entreprise ne m'a pas du tout plu. J'ai tout quitté et je suis partie en Australie, voyager en van pendant 6 mois. Donc là, j'ai testé le minimalisme de la vie et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Et j'ai vraiment adoré le fait de pouvoir décider ma journée comme je l'entendais et que personne ne me dise comment je devais faire, en fait. Et je suis rentrée malheureusement avec le Covid. J'ai été rapatriée chez mes parents, du coup, j'avais plus rien du tout, plus de CDI, pas de business, rien du tout. Heureusement, j'avais le yoga qui m'a un peu sauvée d'ailleurs pendant ce moment-là. Donc, j'étais déjà prof de yoga hein, à ce moment-là, mais juste, j'enseignais pas, c'était plutôt pour moi. Okay. Et puis, j'ai commencé à donner des cours en live sur Instagram. C'est comme ça que tout a commencé.
C'est comme ça que tu as démarré. Et oui, comme beaucoup de mes élèves ou de mes coachés ou des membres de mon programme, c'est vrai que pour une majeure partie, l'histoire a démarré quand même pendant le confinement finalement. Mmh. Et du coup, tu pratiquais déjà le yoga depuis combien de temps avant de l'enseigner ?
À l'époque, je pratiquais, ça faisait 3 ans, je pense, que je
pratiquais. Oui, ok, le yoga. Ça faisait déjà partie, toi, de tes habitudes, de ton quotidien, tes routines, ok. Mais tu avais fait le choix de ne pas l'enseigner encore ?
Bah, j'avais pas forcément fait le choix, je m'étais même pas posé la question d'enseigner le yoga, vraiment pas. Même pas d'entreprendre, ça m'était mais jamais venu à l'idée en fait. Pas du tout.
T'es d'une famille d'entrepreneurs ou pas? Parce que souvent,
Justement, non. Pas du tout, non. Mon papa est professeur de sport. Bon, j'étais déjà une personne dans le domaine du sport, hein, mais mon papa est professeur, ma maman est contrôleuse de gestion. Pas du tout. Hein. Je suis dans une famille beaucoup de professeurs, donc très sécuritaire quand même au niveau de l'emploi. Et ça a été très dur d'ailleurs pour eux. Enfin, très dur. Pas très dur, mais ils ont été un peu émotionnellement affectés quand je leur ai dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, mais au final, ils ont accepté. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, ouais.
Ouais. Et ils t'ont soutenu quand même ?
Beaucoup. Ah oui. Ah, sans eux.
Ça fait la différence.
Oui. Je pense qu'ils vont écouter cet épisode.
Ah super. Et bah, coucou aux parents de Laurane.
Coucou et papa maman. Mais non, sans eux, je pense que j'aurais jamais continué. Ils ont été là dans des moments compliqués parce que bon, il y en a, hein, comme toujours. Ouais. Ils ont été là et sans eux, ouais, ça aurait été compliqué.
Bon, et ben, il y en aura encore, hein, papa et maman, des moments compliqués parce que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Mais bon, quand même, moi, je t'ai connu, Laurane, il y a quelques mois de ça en arrière maintenant. Je dirais que, bon, il s'est quand même. Enfin, je dirais que je t'ai vue muter de la prof de yoga, peut-être effectivement, qui donnait ses petits cours sur Instagram, en vrai yogipreneur, en vrai entrepreneuse, entrepreneur du yoga, chef d'entreprise. Et c'est de ce parcours-là que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Donc à l'époque, t'es venue vers moi, t'as fait appel à moi du coup pour un coaching personnalisé, un coaching one-one. Et alors j'aimerais bien justement qu'on rembobine un petit peu, qu'on revienne à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens à l'époque comment tu te sentais, où tu en étais, ce que tu venais chercher aussi? L'idée c'est un petit peu de permettre aussi peut-être aux profs de yoga qui nous écoutent de se projeter, ou en tout cas voilà, est-ce qu'elles sont dans cette même situation que toi tu étais peut-être encore il y a un an en arrière, et est-ce que tu peux nous remettre un petit peu des mots sur cette période-là?
Quand je t'ai contactée, moi ça faisait un an à peu près, puisque là ça fait 2 ans que je suis auto-entrepreneur, donc ça faisait un an que j'étais à mon compte. Donc la première année, c'est une année de test, hein. C'est une année où tu touches un peu à tout parce que tu te connais pas, surtout quand t'es jeune et que je peux travailler au final dans une entreprise, mais je me connaissais très peu. Donc j'ai testé beaucoup de choses et j'étais dans un sentiment de... Il y en a trop, j'ai trop à faire, je sais pas comment gérer, je sais pas où donner de la tête. Du coup, je m'éparpillais en fait beaucoup, à essayer plusieurs choses, à tenter. Et j'étais en train de beaucoup me fatiguer parce que je donnais des cours en présentiel beaucoup, beaucoup à l'époque. Et je savais que personnellement, c'était pas ce que je voulais faire puisque de toute façon, je voulais déménager de Paris déjà à l'époque. Donc, les cours en présentiel, pour moi, c'était pas viable sur du long terme. Mais vraiment dans un sentiment de je suis perdue, si je continue comme ça, dans un an je fais un burn-out quoi.
Ouais, la peur de te cramer quoi en fait.
Ouais, bah j'allais me cramer les ailes, hein, je pense, à continuer sur ce rythme-là, j'allais vraiment me cramer les ailes. Donc j'ai fait appel à une aide extérieure parce que c'est nécessaire dans ces moments-là.
Ouais, et donc de mémoire, quand t'es arrivée vers moi, effectivement, t'avais déjà mis en place un petit peu une offre en ligne type, on va dire membership, hein, je pense. Alors je me rappelle plus exactement, très honnêtement, si t'avais déjà un process d'abonnement mensuel en place, mais en tout cas. Je me souviens que c'était ça ton souhait de développer cette plateforme de yoga en ligne. Ouais. Donc peut-être est-ce qu'on peut revenir sur les prémices de ce membership, ce qu'il était à l'époque, et puis ce sur quoi on a travaillé, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est quand même une de tes offres qui tourne bien, enfin qui est d'ailleurs peut-être ta principale offre en ligne. À l'heure actuelle. Donc comment finalement on a fait évoluer ce membership, et surtout comment toi tu l'as fait évoluer, parce que c'est toi qui as mis les mains dans le cambouis.
Oui, à l'époque j'avais le studio en ligne que j'ai toujours d'ailleurs, qui était déjà un membership à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs un membership. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je me cherchais encore beaucoup dans ce membership, donc j'avais une forte communauté en ligne, hein. Une communauté d'ailleurs, on est très soudés, je sais qu'ils vont m'écouter ici pour la plupart, donc coucou.
Alors, coucou à la communauté.
Enfin, beaucoup de coucou. Mais oui, j'avais une forte communauté très très fidèle, qui m'ont soutenue, qui m'ont suivie, même si je me suis beaucoup perdue dans ce moment-là. J'ai essayé d'associer le yoga et le développement personnel en faisant intervenir des intervenants. et je sentais, et d'ailleurs on me le disait, mes parents me le disaient, et tu me l'as dit, que je me perdais, hein, parce que c'est vrai que les gens qui viennent sur un petit membership comme ça, ils viennent pour la personne qui tient le membership, hein, comme Cécile d'ailleurs me l'avait dit, et c'est elle qui m'a mis un peu le nez dans le cambouis, hein, parce que moi j'avais tellement peu de recul sur ça que c'était un peu compliqué de savoir ce qui allait pas, mais je sentais que ma communauté osait pas me dire non plus qu'il y avait un truc qui clochait, et du coup Cécile, toi tu m'as vraiment aidée à m'en rendre compte. Donc là, à ce moment-là, il y a eu un vrai pivot, hein, sur le membership. J'ai totalement arrêté le développement personnel et je me suis focalisée sur le yoga, sur ce que je savais le mieux faire, en fait, de pouvoir donner des cours de yoga spécifiques pour pouvoir faire avancer sa pratique de yoga vers une posture, des pratiques un peu plus avancées, un peu plus en conscience du corps.
Ouais, je me souviens effectivement, et c'est un syndrome entre guillemets, alors je lui ai pas donné de nom encore à ce syndrome, mais que je retrouve très souvent quand on lance comme ça une offre en ligne, et particulièrement ça peut être le cas pour un studio en ligne ou un membership, il y a ce souhait d'en mettre toujours plus à l'intérieur de son offre. Et je me souviens que toi, voilà, en voulant effectivement bien faire, hein, et combler finalement plein de besoins, de demandes, de ce que tu pensais juste aussi, évidemment, il y avait voilà ce fait de toujours plus de vidéos, toujours plus d'intervenants, toujours plus de live. Et c'était ça qui, du coup, manquait un petit peu de clarté. Et donc, à ce moment-là, je me souviens, et c'est un conseil, hein, qu'on peut donner aussi, c'est toujours de mesurer l'impact de ces actions, de ce qu'on met en place. Et c'est là, en fait, qu'effectivement, on s'est rendu compte, en analysant les choses, que ce qui fonctionnait le mieux, c'était tes cours à toi, c'était tes vidéos à toi, c'était effectivement ce qui te correspondait le mieux et ce qui t'animait, ce qui te faisait vibrer, c'est-à-dire comment progresser dans une pratique, en confiance, en sécurité, mais en même temps en se challengeant aussi un peu. Et donc, voilà, on a recentré un petit peu, finalement, la clarté du message, du positionnement, et le fait de ne pas vouloir en mettre plus pour donner de la valeur, mais au contraire, finalement, des fois, savoir en enlever pour que les choses soient plus fluides et plus claires, quoi.
Ouais, je pense tous, hein, quand on démarre comme prof de yoga, on a un peu ce syndrome de... je ne sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais... de se dire les autres, regarde ce qu'elle fait, la nana, elle en fait toujours plus, oh là là, mais elle fait ci, elle fait ça, elle a un studio en ligne, elle a un programme, ah, mais en plus elle arrive à poster sur Instagram en même temps, et on se dit ok, moi je veux faire la même chose. Du coup on se jette sur tout à la fois, on s'éparpille, et au final on fait rien de bien, hein. En s'éparpillant comme ça au début, sans organisation bien sûr. J'ai souffert de ça, à vouloir en faire toujours plus, et même moi au final je me sentais pas bien dans ce studio à ce moment-là, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Donc, il fallait un changement nécessaire.
Ouais, donc finalement, on est venu un petit peu voilà, nettoyer tout ça pour optimiser finalement l'impact de ton studio en ligne. Alors, je me souviens aussi, et alors, ça peut être une bonne stratégie, mais je pense pas quand on démarre. Tu avais aussi deux comptes Instagram à l'époque. Je viens de me rappeler ça au fil de la discussion.
J'avais oublié.
Ouais, il y avait ton compte et tu avais créé un compte pour le studio.
Ouais,
et du coup, il y avait ça aussi, cette gestion qui n'était pas évidente. Et je me souviens à l'époque, même si pour autant, c'est tout à fait possible d'avoir un compte fondateur, donc en ton nom, et un compte de marque pour ton membership. Et c'est peut-être ce que tu développeras d'ailleurs à l'avenir, cet écosystème-là. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément ce que je préconise de, voilà, d'avoir plusieurs comptes à gérer. Enfin, voilà, plus son offre, plus des cours, plus...
Bah déjà, savoir gérer un compte Instagram, c'est tout un truc.
Voilà.
Donc, d'en savoir en gérer deux, d'abord, gère-en un et puis après, on verra pour le deuxième. Mais non, du coup, ce compte-là, je l'ai effacé juste après t'avoir rencontré.
Ouais.
Parce qu'il apportait rien au final et qu'il fallait d'abord que j'élabore une stratégie pour mon compte Instagram actuel pour que ça puisse marcher et que ça puisse m'apporter de la visibilité. Mais ouais, chaque chose en son temps, je pense. Ne pas se précipiter encore une fois.
Mais c'est vrai que c'est important parce que de revoir aussi cette stratégie-là de contenu, cette stratégie vitrine sur laquelle tu te fais connaître, sur laquelle tu as les premiers contacts, sur laquelle les gens aussi voilà, apprennent à te connaître. Et puis, de mémoire aussi, alors ça, je ne sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton business, mais il n'y avait pas forcément de stratégie d'emailing non plus à l'époque. C'est quelque chose qu'on a mis en place.
Non, il n'y avait pas du tout de stratégie d'email, mais je ne savais même pas ce que c'était une stratégie d'email. Cécile, à l'arrivée, elle me fait « Est-ce que tu as une stratégie d'emailing ?» Bah non, je ne sais pas ce que c'est. Envoyer des mails, oui, mais alors une stratégie d'emailing, pas du tout. En tout cas, non, bah, j'envoyais des newsletters de temps en temps, je crois que c'était pour annoncer mes cours, des ateliers que j'organisais, mais juste d'un point de vue pour montrer mes offres, en fait. Mais il n'y avait pas du tout... du tout contenu gratuit ou une stratégie d'emailing à cette époque-là, non, absolument pas.
Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'on a optimisé le membership, mais on a quand même aussi mis autour tout cet écosystème en place. Alors, tu as mis d'ailleurs, parce qu'effectivement, je pense que là-dessus, t'as vraiment bien réalisé les choses avec... Enfin voilà, tu t'es engagé à réaliser tout ça et après, il y a vraiment eu cette régularité... t'as vraiment apporté aussi du contenu de valeur, t'as su aussi voilà, mettre les bons appels à l'action, etc. Mais je dirais que voilà, tout ça, ça a probablement aussi contribué à professionnaliser ton membership, ta visibilité, tes conversions, etc. Et pourtant, tout en rationalisant finalement tout ça. Alors, même si ça reste du travail, parce qu'il faut être régulier, il faut trouver les idées, mais effectivement... c'est pas la peine non plus d'en faire trop ou de le faire de manière aléatoire parce que finalement c'est comme ça qu'on vient un peu se cramer aussi quoi.
Ouais non mais exactement, on a créé tout un écosystème autour du studio avec la newsletter et autour des offres que je proposais et on a réfléchi à tout ça et on a créé une vraie stratégie, ouais, ce que je n'avais absolument pas auparavant. Parce que quand on est prof de yoga, on n'est pas censé savoir forcément faire des stratégies pour développer un business en ligne. Même moi qui avais fait une école de commerce à la base, je n'avais pas forcément appris tout ça. Donc c'est spécifique en fait.
Ouais, il y a souvent un gap entre ce qu'on apprend à l'école ou dans les formations de commerce et le business, le digital marketing de la vraie vie, entre guillemets.
Mais carrément, tellement ouais. En plus, je m'en suis tapée. Bon, désolée pour l'expression. J'ai dit à Cécile que j'allais dire des trucs comme ça. en plus, je m'en suis tapée des cours de marketing digital, mais ça n'a rien à voir. Ça, vraiment... j'ai l'impression qu'on s'est foutu de moi parce que franchement, on m'a pas du tout. Mais oui, on m'a pas du tout appris à faire une newsletter, on m'a pas du tout appris à créer. Mais jamais j'avais pas entendu parler d'un lead magnet, jamais de ma vie.
Ouais.
Alors que pour moi, là aujourd'hui, ça fait partie centrale de ma stratégie marketing. C'est un truc spécifique à apprendre et l'école de co, je suis énervée contre eux là. Et s'ils m'écoutent,
pas coucou. beaucoup à l'école de commerce, du coup, on les boycotte.
Ah ouais.
Et donc, du coup, donc on a, une fois qu'on a eu mis au clair ton membership, t'as voulu aller plus loin. Et à ce moment-là, alors on se rappelle plus trop comment, enfin moi en tout cas, c'est vrai que j'ai des, des passages flous, mais il y avait, il y a eu l'idée de se lancer sur un programme.
Ouais, Level Up aujourd'hui. Pour ceux qui
alors,
sont
qui s'appelle effectivement Level Up aujourd'hui, dont je suis membre hein, d'ailleurs, ouais, du programme Level Up. Et donc, eh ben, est-ce que tu peux nous parler de, du coup, de cette, cette expérience ? Est-ce que pour toi, c'était logique après de partir sur un programme ? Mmh. Comment est né ce souhait ? Est-ce que c'est venu aussi de, la, de ton audience, finalement, des demandes de tes clients ?
Le membership, c'est vraiment une communauté. Donc il y a vraiment cet aspect de bienveillance et surtout de partage. Tous les gens du studio se connaissent et c'était vraiment un accompagnement que j'ai voulu faire sur du long terme. Souvent on dit ça quand on arrive sur le studio, on ne repart pas du studio
parce c'est qu'on bien, devient vraiment
oui bah on est vraiment une bande de potes plus que des pratiquants de yoga. Donc c'est ce que j'ai voulu créer sur le studio et Level Up, j'ai voulu créer ce programme intensif de 3 mois pour compléter un peu. C'est le programme en fait que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai commencé le yoga. Donc il y a 5 ans quand j'ai commencé le yoga, je savais pas comment m'y prendre pour pouvoir aller vers des postures plus avancées, tout simplement pour avoir une bonne routine de pratique de yoga, quelle méthode appliquer, qu'est-ce que je dois faire pour aller au grand écart, j'avais aucune idée. Donc c'est pour ça que j'ai créé Level Up, qui est en fait une très complémentaire au studio. Le studio qui a un accompagnement long terme, le programme Level Up c'est un peu un one shot qu'on a voulu faire en 3 mois. Je te donne toutes les connaissances que j'ai, en fait, à peu près, pour pouvoir progresser dans ta pratique de yoga. Donc, c'est 2 offres qui sont complémentaires. Et ça a été, oui, un souhait de ma communauté. J'avais eu déjà plusieurs demandes me demandant « Est-ce que tu fais des programmes, Laurane ?» Parce que le studio, moi, c'est vrai, le membership, j'ai pas forcément envie de me faire accompagner sur du long terme. J'ai plutôt envie que tu me transmettes sur un programme tes connaissances, etc. Donc, c'est 2 demandes, je pense, qui sont soit différentes, soit complémentaires hein, en fonction de comment on le voit. Donc, c'est parti d'une demande. Et puis, ça s'est créé. Donc, il y a 4 mois maintenant.
Ouais. Enfin, ça s'est créé. On est en plein dans la création. Alors, justement, on va revenir sur le process. Parce qu'effectivement, qui dit être coaché avec moi, hein, dit ne rien créer avant de vendre. Donc, du coup, Laurane, au même titre d'ailleurs, hein, c'est le processus que j'enseigne aussi dans la formation Yogi Bizline. Mais effectivement, donc moi je t'ai accompagnée de la même manière en one-one. L'idée c'est effectivement faire un lancement, vendre avant de créer toute son offre de A à Z. Hein, alors ce qu'on peut appeler soit une pré-vente, et d'ailleurs toi ça a été vraiment le cas de la pré-vente, soit dans certains cas un bêta-test quand quelque part on fait un échantillon de la future formation et qu'après on vient la peaufiner. Mais dans ton cas, on est parti sur la stratégie de la prévente, qui est aussi ma stratégie préférée, je dois le reconnaître. Et donc j'aimerais bien effectivement qu'on revienne un petit peu sur cette expérience. Donc là pour le coup c'est vraiment une discussion business, mais c'est comment on part d'une idée, d'un besoin de ta communauté. Donc t'avais ton positionnement, t'avais ton idée de programme, et comment tu t'es à un moment donné lancée dans le bain et pour vendre ce programme, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Comment ça a démarré? Ça a démarré qu'on a fait le coaching individuel avec Cécile, et en plus moi j'ai suivi Yogi Bizline, donc j'ai fait la totale.
j'ai le combo parfait.
Ouais, j'ai fait le combo parfait. Moi j'ai décidé de le faire en très peu de temps. J'ai consommé tout le contenu, je pense qu'en le temps de la formation, c'est 3 mois, je crois, au Yogi Bizline.
Oui, ouais, au début, c'était 3 mois, ouais. Enfin, c'est toujours, mais en fait, après, ça dépend, comme tu dis, à quelle vitesse on veut le consommer, mais...
Bah, je l'ai consommé direct. Enfin, dès que tu avais mis tous les contenus, je l'ai consommé direct pour pouvoir avoir toutes les connaissances. Et ça a commencé par du coup un lead magnet où c'était un petit e-book que j'avais créé où je m'étais pris en photo sur des postures de souplesse. Et ça donnait les 20 postures de souplesse, je crois, qui vont t'aider à progresser dans ta pratique de yoga. Donc, c'est un petit e-book gratuit que j'ai fait tourner. C'était tout l'été ou en septembre, je crois.
Ouais.
Donc, c'était la première stratégie pour pouvoir attirer des clients, puisque du coup, pour les attirer vers ma liste email au final. Et ça avait très bien marché. Hein. Je crois que j'avais eu plus de 500 téléchargements. Donc, c'est quand même énorme. C'est super. Et après ça, bien sûr, il y avait un gros travail de pouvoir... c'est une discussion très business, mais entre guillemets, éduquer ma cible. Donc, pour pouvoir réchauffer l'audience, pouvoir surtout leur communiquer qui j'étais, leur montrer quel était mon type d'enseignement. Donc ça, par le biais d'envoyer des petites vidéos gratuites, pas trop longues, des petits conseils chaque semaine. Donc j'ai été très présente chaque semaine, que ce soit sur la newsletter ou sur Instagram, puisque si les personnes me suivaient sur la newsletter, c'est que normalement elles me suivaient sur Instagram, sur les deux canaux.
Tout à fait,
donc il y a eu un gros travail de réchauffement de la cible pendant 3 mois.
La stratégie finalement de pré-lancement qui va servir effectivement à préparer l'audience pour qu'elle soit prête et qu'elle passe à l'achat, si le produit lui convient, enfin comment dire, elle sait que tu es la bonne personne pour l'accompagner sur ce que tu, la transformation, la promesse de ton programme. Et donc en fait voilà, une grosse machine de contenu qui s'est mise en route effectivement pour se faire connaître, pour partager au mieux ce que tu pouvais apporter aux gens, comment, avec quoi, et après libre à eux effectivement au moment où le programme arrive effectivement, c'est ok, je sais, donc c'est moi qui choisis maintenant,
en âme et conscience. Exactement. Et avant de lancer, d'ailleurs, il y a eu le challenge. Ça, c'était ma première masterclass, d'ailleurs. Tu m'as fait sortir de ma zone.
Le challenge, c'était après. On a commencé par la masterclass. Donc, c'est ta pré-vente. Ta pré-vente, c'était avant Noël, avec un tarif Early Bird. Et tu as fait, en fait, un masterclass atelier.
Ouais. Oui, j'ai fait ma première masterclass atelier, j'avais fait sur c'était le même thème que le e-book que j'avais sorti, les méthodes d'assouplissement, d'équilibre pour tenir toujours. Moi, je suis très orientée vers un peu les tricky-poses. Du coup, c'était les meilleures techniques pour pouvoir tenir en équilibre sur les mains, des choses comme ça.
Oui, mais c'était complètement stratégiquement. Hein, on peut dévoiler les coulisses de la stratégie. Je les garde pas secrètes pour moi, mais c'est effectivement le e-book qui était complètement en lien avec l'offre qui allait sortir. Donc, c'est ça qui est important, parce qu'effectivement, si on veut attirer une audience qualifiée et qui s'intéresse au produit ou à l'offre ou au programme qu'on va sortir, évidemment, il vaut mieux sortir du contenu et un lead magnet qui est directement en lien avec ça. Sinon, on risque de ne pas attirer les bonnes personnes, entre guillemets, ou en tout cas, de ne pas leur offrir l'offre qu'elles attendent. Donc voilà, c'est effectivement ce qui a permis alimenter la liste email de personnes qui avaient envie d'aller vers ce type de programme-là. Ensuite, le contenu, pour vraiment bien apprendre à se connaître et puis lever éventuellement les blocages, les fausses croyances, pourquoi tu peux être la bonne personne pour les accompagner, etc. Donc ça a été tout le travail de préchauffage. Et effectivement, donc on a choisi le mode de la pré-vente, et donc c'est là où tu as fait une masterclass, et l'idée c'était donc d'inviter les gens à rejoindre cet événement en leur disant aussi qu'il y aurait quelque chose de spécifique pour eux s'ils participaient effectivement à la masterclass, qui était donc le tarif Early Bird. Et puis je crois aussi t'avais pas de place limitée, je crois, à l'époque,
pour rejoindre le programme Level Up.
T'avais pas limité les places.
Je savais que je voulais pas dépasser les 50 personnes. Oui. Mais non, ça c'était plus tard. Parce qu'à l'époque, non, je me suis dit, je vais même pas faire. Oui, parce qu'au début, je me suis dit, oh, mais déjà, si je fais 10 ventes, c'est un truc de fou.
Ouais, c'était ça, 10 ou 15, le goal, ouais, exact.
Oui, déjà, je m'étais bridée mentalement. Je m'étais dit, déjà, je m'étais pas mis de limite. Parce que je me suis dit, déjà, si t'arrives à faire 10 ventes, c'est un truc de ouf, Lauren. Donc, non, il n'y avait pas de limite. Parce que niveau mindset, c'était pas encore ça.
Et là, effectivement, c'était... ouais, mais comme quoi... c'est intéressant ce que tu dis, niveau mindset, c'était pas encore ça. Mais j'aime bien, moi, souvent dire que si on a le mindset et qu'on n'a pas la stratégie, je suis pas convaincue que ça fonctionne pour autant. Et à l'inverse, je dirais que là, voilà, la stratégie, en fait, est venue soutenir ton mindset. C'est-à-dire ouais. que, voilà, effectivement, c'était nouveau, c'était une sortie de zone de confort... c'était la première fois, voilà, et c'était challengeant. Il y a aussi la peur d'échouer, de pas réussir, de devoir expliquer aux autres que ça n'a pas marché, etc. Enfin, voilà, je pense que tout le monde se reconnaît bien dans toutes ces peurs-là.
Carrément.
et sauf que la stratégie, quelque part, quand on accepte aussi de s'engager dans cette stratégie et de... Alors, effectivement, il faut peut-être faire confiance hein, et se dire « Ok, je déroule le plan et je pars pas à droite, je pars pas à gauche, j'y vais. » Et ouais. je pense que du coup, c'est venu soutenir peut-être voilà, ces petites défaillances de mindset ou ces petits doutes qu'il peut y avoir quand on vit ce genre d'événement.
Bah oui, je me suis raccrochée à ma stratégie et à tout ce que j'avais appris en fait. Hein, parce que le mindset, il n'était pas là, j'étais flippée. Flippée, de pas faire de vente, j'avais pas confiance en moi du tout. pas beaucoup.
Il y avait l'envie, par contre. Tu vibrais et tu étais passionnée par ton projet quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. Bah, heureusement, oui, j'étais passionnée, j'étais pleine d'envie. Personnellement, je croyais très fort en mon projet. Mais comme c'était la première fois, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, quand on se lance la première fois, on a encore ce fameux syndrome de l'imposteur hein, qui est là et qui te dit oh, « mais il y a mieux sur le marché, mais tu pourrais toujours faire mieux », et tous ces petits dialogues internes. Donc, ils étaient très présents à ce moment-là et c'est pour ça que je m'étais pas mis de limite pour intégrer level up durant la pré-vente, après la masterclass que j'avais faite du coup, ouais.
Et donc, est-ce que c'est juste pour toi, effectivement, si je dis que suivre le plan et justement appliquer la stratégie, finalement, et un peu faire confiance au plan, est-ce que ça, d'une part, ça t'a aidé ? Alors, probablement aussi le soutien extérieur, probablement la passion dans ton projet, ça, c'est évident.
Ah oui, moi, je me suis raccrochée à la stratégie, oui, parce que
au plan,
à ce moment-là, j'avais rien d'autre de toute façon, donc j'étais là, applique. Lauren, ça faisait longtemps que je travaillais sur Level Up. Hein. Ça faisait plus de 5 mois quand même, 6 mois que je travaillais sur Level Up.
Parce que t'as eu ta blessure entre temps.
Ouais, je me suis blessée. Ouais, je me suis fait une tendinite.
Du coup, ça avait décalé un petit peu. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui était. Alors, longtemps que tu travaillais, hein, je reprécise que à ce moment-là, donc au moment où tu fais le lancement, où tu fais ta masterclass pour dire voilà, j'ai un truc à vous vendre, c'est X euros en early bird. C'est maintenant et voilà, je tiens à préciser, donc c'est toute la stratégie de la pré-vente, que rien de ce qu'il y avait à l'intérieur du programme, si ce n'est bien évidemment toute la structure et ce que tu voulais y mettre, le plan on va dire, mais rien n'était créé. Hein.
Rien n'était créé du tout, non. Pas du tout. C'était, j'avais tout le plan. Oui, je savais exactement où je voulais emmener les personnes. Non, j'ai pas fait à l'aveuglette non plus, mais j'avais tout mon plan défini. Oui, je savais où je voulais aller. Mais non, aucune vidéo n'était créée. Donc, celle-ci, c'est un peu flippant au début hein, quand tu te dis, je suis en train de vendre un programme que je n'ai pas créé.
De vendre du vent. Et du vide. Et donc du coup, si on résume hein, sur ce lancement, cette vente, c'était une masterclass. Enfin, donc le contenu avant, évidemment, hein, le plan de pré-lancement, etc. Le lead magnet, le plan de pré-lancement, la masterclass et qu'est-ce que je voulais dire ? Quelques mails de vente, hein, quand même, de mémoire.
Il y avait une bonne séquence mail de vente qui avait été bien peaufinée, ouais.
Et donc ça nous a fait combien de ventes ?
J'en ai fait 50. J'ai bloqué en fait parce que j'étais à mon maximum et j'avais dit que je voulais pas en faire plus, donc j'ai fait mon maximum que je voulais en fait.
Et alors qu'est-ce qu'on ressent ? quand on fait, quand ça se passe comme ça? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment tu as analysé ça après coup ou à chaud?
Chaud, et j'étais dedans. Hein. Voilà, j'étais avec mes post-it là, parce que je faisais une animation post-it en même temps aussi avec les ventes. Donc j'étais à chaud, je comprenais rien. Je voyais les ventes qui. En plus, je suis sur système IO comme toi, du coup, je vois à chaque fois le petit mail qui dit Vous avez fait une vente, etc. Donc j'étais on fire sur le moment, je sais pas, l'excitation du lancement. Je me suis pas rendu compte. On a débouché le champagne et tout, on a fait la fiesta avec mes potes. pour fêter ça. Mais c'est après que je me suis. Que j'ai, parce qu'au début, j'ai rien compris. Je me suis dit, putain, mais comment t'as fait ça, Lauranne? Et c'est après que j'ai décanté et que j'ai tout revu, tout ce que j'avais mis en place pendant ces 6 mois de préparation et tout le travail en amont qu'il y avait eu comme ça auparavant. Parce que c'est pas juste je lance un programme comme ça. C'est, level up, c'est 6 mois de travail avant. et c'est ça le plus gros du travail, je pense.
Ouais, ça a été de trouver les contours de ton offre, ce que tu voulais y mettre à l'intérieur, comment t'allais formuler les choses, qu'est-ce que tes clients avaient besoin, ce que t'allais comment t'allais leur apporter cette transformation, etc. Il y avait aussi le questionnement de, effectivement, comme c'est sur des postures avancées de yoga, quel type de vidéo, comment faire pour, enfin, il y avait des vrais sujets aussi, comme on en discutait tout à l'heure en off, mais éviter les blessures, etc. Parce que sur ce genre de programme, surtout en ligne, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc voilà, il y avait la réflexion effectivement de toute cette pédagogie qui s'est faite. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été voilà un lancement réussi. Est-ce que alors aujourd'hui effectivement, si avec du recul, c'est quoi pour toi les clés qu'on fait que ça a fonctionné? On les a peut-être déjà évoqués du coup, parce que j'imagine que voilà, il y a effectivement déjà tout ce travail de lancement en fait, ça s'apprend à vendre quelque chose, c'est pas voilà. Mais est-ce qu'il y a autre chose peut-être sur quoi j'ai pas mis le doigt ou qui t'a marqué?
Pour moi, la clé la plus importante, c'est d'être vraiment passionné par le programme que tu vas lancer, que ce soit un programme ou un membership. Si tu le fais juste parce que tu te dis, pour moi, juste. Ouais, je crée une offre, je me fous dans, j'en sais rien. Si par exemple moi je m'étais mis dans la maternité pour les post-natales parce que ça marche bien, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Mais je m'étais dit bon, c'est une super niche. Pour moi, ça aurait pas du tout marché puisque je pense que je ne sais pas, j'ai peut-être pas les bonnes paroles pour parler à des personnes qui attendent un enfant. Et tu vois, même ça, je saute
même ce mot, je n'arrive pas à dire.
Je suis pas à l'aise en fait, je suis pas du tout passionnée par ça. Bon, je parle de femme enceinte, ça aurait pu être pour l'endométriose, j'en sais rien, mais il faut être passionnée par le programme que tu vends. Et moi, je suis passionnée par l'anatomie, par les méthodes de souplesse, par les postures un peu plus avancées de yoga. C'est ce que j'adore faire et j'adore savoir quels drills pouvoir appliquer, quelles méthodes, comment fonctionne mon corps au niveau anatomique pour pouvoir aller dans telle posture. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne dans le yoga. Et c'est pour ça que j'ai créé Level Up. Donc, de pouvoir être passionnée par ton membership ou par ce que tu vas créer, peu importe, mais il faut être passionnée parce que sinon, pour moi, ça ne marche pas.
Ouais. Mais simplement, je suis complètement en adéquation avec ça. Et d'ailleurs, je pense que les élèves qui sont dans YogiBizLine retrouveront. Il y a une slide qui est vraiment dédiée à ça, où je l'écris en gros dans la nouvelle version, que vraiment, je pense que la clé numéro un pour se lancer, c'est est-ce que le sujet de ton offre, le positionnement que tu choisis, la transformation que tu veux apporter, vraiment, est-ce que c'est quelque chose que tu vis, que tu respires, qui te passionne, qui transpire,
exactement,
qui transcende? Sinon, à la limite, mindset et stratégie inclus, si t'es pas passionné, je pense que voilà, c'est
ça marche pas.
D'ailleurs, c'est un des piliers aussi de l'ikigai, le fait d'être passionné. Mais pour moi, effectivement, je pense que c'est le truc numéro un. Faut vibrer
puis,
son offre. Quoi.
J'ai envie de te dire, on s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour faire des trucs qui nous plaisent pas. Franchement, on se met dans une position au début qui est assez. On va pas dire que c'est pas simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un challenge, une sortie de zone de confort. Et je pense que si on le fait, c'est parce qu'on sait pourquoi.
C'est pour kiffer, quoi.
Et c'est pour kiffer. Ouais, c'est pas pour se foutre dans une situation, essayer de proposer un truc qui nous convient pas, qui nous saoule. Donc, soyez passionnés par ce que vous proposez, ouais.
Ouais, ouais, on n'est pas là pour souffrir. Déjà que...
On n'est pas là pour souffrir, ok.
Et du coup, alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les coulisses d'aujourd'hui, parce que du coup, effectivement, alors évidemment, je le sais, j'en suis bien consciente, mais quand on fait une prévente comme ça... Donc effectivement, il y a l'euphorie quand ça fonctionne. Il y a aussi du coup la motivation, parce que voilà, savoir que notre offre s'est vendue, bah, c'est beaucoup plus facile ensuite de mettre le pied à l'étrier et de la construire et d'aller enregistrer ces vidéos quand on sait que voilà, on a déjà des gens qui ont acheté, qui nous ont confié leur argent et qui attendent le programme. Donc effectivement, ça permet d'avoir une bonne dose de motivation au début. Par contre, je sais aussi que, bah voilà, parce que moi, pour l'avoir vécu aussi sur la première version de Yogi Bizline, bah après, il faut créer tout le contenu et le créer quelque part au fil de l'eau. Et en fait, bah c'est quand même un flux tendu, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, derrière, faut assurer. C'est vrai que idéalement, faut pas avoir un contretemps ou un pépin, même si bon, voilà, on peut toujours expliquer les choses, mais voilà. Donc comment ça se passe aujourd'hui dans les coulisses de la création du coup du programme, alors qu'ils sont déjà bien avancés, mais je crois qu'il reste encore 5 semaines de programme. C'était un programme sur 3 mois.
Ouais, il reste 5 semaines encore. Bon, déjà hyper contente, hein, parce que là, les 50 personnes qui nous ont rejoints, franchement, elles sont top, elles sont hyper motivées. Donc sur ça, je suis vraiment hyper content. Ils sont proactifs. En plus, il y a beaucoup de discussions. Hein. Moi, l'une de mes valeurs principales, c'est vraiment cette communauté, cette entraide, cette bienveillance. Et même, bon, je l'ai sur le membership, mais je voulais le recréer sur Level Up. C'était hyper important pour moi.
Ouais, on le sent dans tes deux offres. Hein. Enfin, moi qui ai participé aux deux offres, on le ressent. Hein. Ça, c'est sûr.
Bah ouais, c'est ce que je voulais créer. Donc sur ça, ça va. Après, là, sur la création de vidéos, bah, comme on disait tout à l'heure en off aussi, bah, je suis sur un flux tendu. Hein, comme j'avais pas créé l'offre au début. Enfin, comme je disais, j'avais tout en tête. Je savais où je voulais aller, mais il n'y avait pas de vidéo qui était créée. Donc, je crée les vidéos au fur et à mesure. Donc, c'est intense. Hein, on va pas se le cacher. Mais je privilégie toujours la qualité avant le vite fait, la quantité, donc je le fais quand même, mais c'est vrai que là, je suis sur un fil tendu, je commence à être un peu fatiguée, mais je sais que c'était la bonne stratégie, et si c'était à refaire, je le referais exactement pareil.
Ah bah, tu m'as enlevé la question justement de la bouche, c'était ça, je me disais, est-ce que si c'était à refaire, tu choisirais aussi là? Alors évidemment, dans le même contexte, hein, parce que maintenant, la suite va faire que voilà, t'as pris confiance, tu seras peut-être plus à l'aise aussi pour lancer tes offres autrement, enfin voilà. Mais effectivement, comme première stratégie pour se lancer, ou même quand on a une nouvelle idée pour la tester justement, voilà, c'était la question justement, si c'était à refaire, donc oui, tu referais pareil.
Bon, carrément. J'ai pas eu de gros pépins en plus, franchement. Je sais pas si j'ai été chanceuse ou si j'ai été bien organisée pour une fois. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé.
Mais enfin, un petit peu quand même. Hein.
Un petit peu quand même.
Je pense que tu as certainement... ouais, alors je pense que tu as une image de toi qui n'était peut-être pas organisée il y a quelques temps en arrière, mais que par la force des choses, c'est probablement devenu une de tes qualités dans ton business, parce que je pense quand même
Tu diras ça à mon père, il arrête pas de dire « t'es pas organisée, Laurane
». Bah, il m'écoute, donc papa Laurane,
Laurane,
il y a déjà eu une grosse marge de progression.
Oui, non, à la base, c'est vrai que j'étais pas du tout quelqu'un d'organisé, mais je le suis un peu devenue, on va dire. Mais si c'était à refaire, oui, je referais exactement la même chose. Et j'ai pas eu de gros pépins, à part beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété à gérer. Mais le yoga, les pranayama, la méditation que je pratique aussi pas mal m'ont aidé aussi à passer ce moment-là. Donc il faut pas mettre non plus dans ces moments-là de stress où on lance des programmes ou quoi que ce soit de côté notre pratique. Hein. Et c'est souvent le problème en tant que prof de yoga. on ne pratique plus, et j'ai fait cette erreur-là. Ça, c'est une erreur par contre que si c'était à refaire, je ne referais pas. De mettre sa pratique de yoga de côté. Hein. Si vous faites prof de yoga, de toute façon, on est inspiré quand on pratique. Si on ne pratique plus, il n'y a plus d'inspiration.
Oui, vaut mieux mettre un post Instagram de côté et s'offrir 30 minutes de pratique que, effectivement, oui, je suis tout à fait.
Faut pas déconnecter tout ça. Faut pas déconnecter.
Oui, oui. Et on peut faire les deux, et on peut faire du marketing et en même temps aller sur son tapis et retrouver
mais justement. Ouais. Mais ça, je trouve ça dommage parce qu'on a une. Des fois, les gens ont des visions du marketing un peu diabolisées, alors que moi, je suis prof de yoga et je pense que je suis un peu passionnée par le marketing. Et je suis carrément même passionnée par le marketing digital, Instagram, tout ça, les techniques de vente, l'emailing, ça me passionne. Et je trouve ça un peu. Je sais pas. Pour moi, les deux peuvent très bien aller ensemble et on peut faire du marketing éthique. Hein, c'est pas pour moi le marketing.
Bah, c'est ce qu'on fait, j'espère.
Oui. Et pour moi, le marketing, c'est juste, je t'aide à que tu te rendes compte que mon offre, elle pourrait t'aider. En fait, c'est pas, je te vends quelque chose qui te convient pas. C'est, je t'aide à prendre conscience que ça pourrait t'aider. Faut essayer de voir les choses dans le sens inverse un peu pour les personnes des fois qui ont du mal avec le marketing.
J'aime bien l'expression que le marketing c'est pas forcément vendre, c'est servir en fait. Enfin, il y a l'expression anglaise qui dit que c'est pas selling, c'est serving. Et j'aime bien cette idée qu'effectivement, c'est aussi on fait tout ça. Nos objectifs, sont authentiques. Et en même temps, justement, passer par une stratégie de contenu, c'est aussi justement ne pas être pushy. Dans ses ventes, ne pas faire peut-être de la prospection active, du démarchage, on va dire grossier ou de masse, c'est justement te dire moi je te propose les choses, tu peux disposer de ce contenu et si tu as envie d'aller plus loin, l'offre est là. Alors évidemment qu'on va utiliser des stratégies pour créer le déclic, ce qui aussi permet à notre audience des fois d'éviter de procrastiner parce qu'il y a un tarif, parce qu'il y a une quantité de places limitée, parce que évidemment on va venir utiliser ces petites stratégies de déclic, mais c'est jamais avec une mauvaise intention.
C'est full bienveillance derrière et cool.
En tout cas, on a un petit peu fait le tour, je crois, du travail qu'on a fait ensemble. Je pense que maintenant, t'es prête et tu me fais déjà, d'ailleurs, depuis plusieurs mois, à voler de tes propres ailes pour la suite. Alors d'ailleurs, c'est quoi la suite, Laurane, maintenant ?
La suite, maintenant, je déménage à Bordeaux. Je quitte Paris enfin, parce que désolée parisien, j'aime pas trop Paris. Je suis pas parisienne à la base, donc c'est un peu compliqué pour moi. En plus, je donnais beaucoup de cours à Paris et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose pour moi de donner autant de cours. D'ailleurs, les jeunes professeurs qui débutent, faites attention à vous.
En tout cas, toi, c'est pas le business model qui te.
Non, moi, ça me convient pas.
Objectifs de vie.
Non, et je me suis blessée à cause de ça. Donc, c'est vrai que je m'écarte du milieu présentiel et je me rapproche du monde online. Déjà aussi parce que j'ai une super communauté qui me suit, que ce soit sur Instagram ou sur les offres que j'ai. Et quand je serai à Bordeaux, je vais à 200% me consacrer à eux, en fait, pour pouvoir leur proposer toujours mieux sur le studio, continuer de développer cette offre du membership, continuer aussi pouvoir relancer Level Up, que je relancerai à l'automne, je pense, environ.
Super.
Donc version 2, qui sera améliorée. Et de pouvoir développer mes retraites également, que je fais déjà. Que je propose déjà des retraites de yoga, tournées bonne humeur, bonne vibes. D'ailleurs, j'aimerais vraiment développer cette image. Ouais, yoga, surf, bonne vibes, c'est un peu mon truc. Je voudrais vraiment essayer de développer cette image de marque autour de ce que je propose, du yoga et de la bonne humeur. Parce que des fois, c'est vrai que je trouve que dans le yoga, on est un peu... On parle de choses pas très cool tout le temps, un peu pas en dépression, mais les gens sourient pas assez. Alors que moi, j'ai envie en tout cas de pouvoir transmettre le yoga dans la joie, dans la bonne humeur.
La bonne ambassadrice pour ça, j'ai aucun doute. D'ailleurs, c'est moi qui avais répondu au sondage clown.
Ah oui, elle avait mis clown. Le clown.
Clown, oui, loin de l'ego spirituel, qui parfois effectivement est un peu fatigant.
Oui, j'adore la spiritualité, mais en tout cas, c'est pas forcément ce que je partage sur les réseaux. Je pense qu'il y a des personnes qui le font bien mieux que moi. Donc moi, je me concentre sur le yoga, la bonne humeur et progresser dans sa pratique de yoga, s'éclater, se challenger. Ouais.
Ouais. Et ça nous voit, ça. C'est des belles valeurs, une belle image de marque aussi derrière. Et en tout cas, moi, j'aimerais conclure un petit peu cette aventure du coup que j'ai eue avec toi. Bon, d'abord en te remerciant parce que c'est super agréable de travailler avec des personnes comme toi qui viennent et qui s'en remettent un petit peu dans le sens, voilà, qui viennent et qui suivent le process. Alors même si effectivement, voilà, hein, ça reste du coaching, donc c'est toi qui décides, mais qui entre guillemets accepte le challenge. Et moi, je tiens quand même à dire que effectivement, si ça fonctionne aussi, c'est parce que à la base, t'avais déjà cette responsabilité vis-à-vis de ton business, cette envie effectivement et cet engagement. Voilà, et même quand le mindset n'était pas au rendez-vous, de faire confiance effectivement à la stratégie et à tout ce qui pouvait supporter ce mindset au mieux. Et donc ça, c'est super agréable. Et je pense que pour le coup, c'est aussi un des facteurs clés de la réussite, de prendre la responsabilité de son business à un moment donné, d'investir aussi sur soi. Alors évidemment, ça peut paraître forcément, j'ai des offres à vendre pour développer son business de yoga, mais je pense que encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et que on peut pas deviner tout ça. Tu l'as dit toi-même, même sortant d'une école de commerce, il y a des choses. Ça s'apprend. Et donc, je trouve que de prendre cette responsabilité, de se dire, OK, je veux développer mon activité de yoga en ligne, mais du coup, à un moment donné, j'investis sur moi, je m'engage, je suis le plan, j'avance. Et t'en as un petit peu parlé déjà, mais je trouve que t'as cette belle capacité à, quelque part, tu vois, même si tu avais pu avoir le syndrome d'imposteur, des doutes ou quoi, mais à sortir finalement de ta zone de confort. Et je pense que à un moment donné, effectivement, au-delà de l'engagement, des compromis aussi, parce que forcément c'est beaucoup de travail, hein, faut pas se leurrer, mais c'est aussi accepter ça, quoi, accepter de sortir de cette zone de confort.
Ouais, souvent on en a peur. Enfin, moi, j'ai pas du tout été éduquée dans le fait de sortir de sa zone de confort, pas forcément. Et en fait, c'est là où je me sens la plus heureuse, hein, de sortir de ma zone de confort, de me challenger. C'est là où vraiment je m'épanouis le plus. Même si ça me fait flipper de ouf, que c'est pas drôle tous les jours, qu'il y a des hauts et des bas. Mais l'action. Pour moi, l'action, c'est là où on s'épanouit, où on se réalise et qu'on pousse, quoi. Et d'ailleurs, il y a une citation que je kiffe et qui est d'ailleurs partout sur mon... Enfin, elle est écrite en grand sur mon frigo. C'est la distance entre tes rêves et ta réalité. Ça s'appelle l'action. En tout cas, à méditer.
Bon, eh bien, alors, on va garder cette punchline pour clôturer l'épisode. La différence entre tes rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Ça me va, je signe, Laurane, et je te souhaite vraiment plein de succès et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.
Merci Cécile.
J'espère que ce retour d'expérience t'a inspiré. N'hésite pas à suivre Laurane sur son compte Instagram @Laurane avec un seul N, .Landry avec un Y. Et si toi aussi tu veux prendre ton business de yoga en main, eh bien nous t'attendons avec près de 150 profs de yoga dans Yogi Bizline. Si cet épisode interview t'a plu, n'hésite pas aussi à me laisser une note et un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est grâce à des gens comme toi que le podcast se fait connaître. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.